BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour et bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons dans les Hauts-de-France, à Calais, chez Aprolis, un spécialiste de la location de matériel de manutention. L'entreprise, vous allez le voir, veut accélérer sur l'électrique, le reconditionné et la décarbonation de ses sites. Ça fait beaucoup de défis à relever. Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons merchandising et PLV dans la deuxième partie de l'émission. Le merchandising peut-il être durable et est-ce qu'il devra à l'avenir nous inciter à moins consommer? On verra ça avec deux dirigeants du secteur qui bousculent leur modèle d'affaires, Françoise Raoul Duval de Diam et Loïc Schouteten de LVH. Et on terminera l'émission, comme toujours, avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va! Et on part donc à Calais chez Aprolis, une société leader dans la location de matériel de manutention. Ses objectifs de décarbonation sont très clairs, mais les défis à relever, loin d'être évidents, Philippe Indolbo est sur place avec les équipes d'Aprolis.
Aujourd'hui, on est chez Aprolis, leader français dans la location de matériel de manutention, avec plus de 50 000 machines issues de 300 marques, comme celle juste derrière moi. Et face à l'urgence climatique, l'entreprise fait face à plusieurs défis, notamment électrifier toute sa flotte, développer le reconditionné et décarboner ses agences. Alors, on fait le point ensemble. Tout de suite, c'est parti.
Aujourd'hui, nous avons une flotte de location de 50 000 matériels à travers 6 pays en Europe. Et on a déjà fait un grand chemin sur l'électrification puisque 80% de nos matériels sont électriques, mais nous avons encore 20% des matériels qui sont des matériels thermiques. Et notre défi, c'est d'aller à 100% de matériel électrique d'ici 5 ans. Là, vous avez devant vous un chariot électrique, mais avec une batterie plomb. Les batteries plomb, c'est des batteries ancienne génération. Et ces batteries plomb vont être remplacées par des batteries au lithium qui présentent énormément d'avantages pour les clients. Une batterie plomb, si vous n'êtes pas encore passé à l'électrique, vous devez avoir une salle de charge dans votre usine. Vous devez manipuler et sortir la batterie plomb et vous devez entretenir régulièrement cette batterie au plomb. Alors que la batterie au lithium que je vais vous présenter de l'autre côté, ce ne sont que des avantages pour le client, puisque vous n'avez plus d'entretien, vous allez charger beaucoup plus rapidement et vous n'avez pas besoin de salle de charge pour charger ces batteries-là. Et en économie de carbone, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a beaucoup moins de déperdition de CO2 lorsque vous chargez une batterie au lithium par rapport à une batterie plomb. Donc, pourquoi ne pas changer du thermique à l'électrique? On se demande.
Bonjour Benjamin de Castelnau.
Bonjour Stéphane.
Merci Thomas, merci de nous avoir accueillis sur le terrain dans votre site de Calais. Vous êtes le directeur général d'Aprolis et vous êtes aujourd'hui en plateau avec nous pour qu'on vous aide à avancer sur vos défis. On vient de voir le premier, l'électrification de votre flotte. Et c'est Maximilien Rouet de Mazars qui va s'en occuper aujourd'hui. Bonjour Maximilien.
Bonjour Thomas.
Merci d'être là, on rentre dans le sujet avec vous Maximilien. Dans le vif du sujet, comment faire pour que Benjamin électrifie les 20% restants de sa flotte?
Alors déjà, je tiens à souligner la chance qu'on a d'avoir un opérateur qui est déjà électrifié. 80%, c'est considérable. Si tout le monde en faisait autant, on s'en porterait mieux au niveau climat. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est comme Benjamin l'a dit dans l'émission, c'est que cette électrification permet non seulement d'économiser du CO2 si l'électricité provient de nucléaire ou d'énergie renouvelable,
voilà, c'est
le cas en France, voilà. Et le rendement entre l'énergie de charge et l'énergie de décharge, donc l'énergie de décharge étant l'énergie utile, est juste 10 fois supérieur sur les nouvelles batteries lithium. Ouais. 10 fois supérieur, c'est-à-dire qu'on économise encore 10 fois plus d'énergie par rapport à une batterie plomb. Donc on est dans une dynamique où l'essentiel des opérateurs B2B type Aprolis aurait intérêt aujourd'hui à passer au lithium, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Et évidemment, on a tous en tête les déboires de la voiture individuelle, l'automobile,
électrique,
avec voilà, la voiture électrique, il y a des rendements, il faut charger, ça dure des heures, etc. Effectivement, ce n'est pas du tout le cas dans le matériel B2B, parce qu'on a un usage et une organisation au niveau des usines qui permet de ne pas avoir ces déboires-là. Donc, comme le disait Benjamin, l'électricité, l'électrification aujourd'hui du parc de matériel de location est une chance, est une aubaine, et c'est accessible, et c'est l'avenir dans le contexte de changement climatique.
Et donc, Benjamin de Castelnau, les 20% restants, qu'est-ce qui bloque chez vos clients? C'est quoi? C'est le coût? C'est une question de techno qui n'est pas encore mature sur les gros engins. C'est quoi l'obstacle ?
Alors Thomas, l'obstacle, c'est une évangélisation auprès des clients qu'il faut qu'on fasse. Ouais. Parce que les clients ont l'impression que c'est la même chose qu'une voiture, un véhicule D'accord. électrique, et donc je sais pas où je vais pouvoir me recharger, etc. Okay. Et donc alors qu'il y a tout prévu au sein de l'usine, il y a des bornes électriques, et en fait il faut éduquer le client et il faut leur montrer à pouvoir recharger les batteries de façon opportuniste. Mmh. À chaque fois qu'on recharge comme un téléphone portable, une heure, ben on regagne du temps, donc ça va être beaucoup plus efficace qu'un matériel au plomb ou un matériel thermique.
Alors vous parlez d'éduquer les clients, ça fait lien avec le défi suivant, parce que vous avez une autre bonne parole que vous voulez prêcher auprès d'eux, c'est de passer au reconditionné, d'accélérer là-dessus. On voit ça avec Philippine.
Deuxième défi, accélérer la location de matériel reconditionné. Le reconditionné représente aujourd'hui 30% de la flotte louée. Objectif, atteindre 50% en 2030. Encore faut-il convaincre les clients de franchir le pas.
Le gros avantage pour l'étiquette RSE, c'est si vous comparez un matériel neuf par rapport à un matériel d'occasion, c'est seulement 15% d'extraction de masse par rapport à un matériel neuf. Maintenant, il va falloir expliquer ça au client. Et le client, ça va être gagnant-gagnant, puisque d'une part, il ne va pas voir forcément la différence. Il aura la garantie d'Aprolis. Et surtout, ça va lui coûter moins cher, puisque un loyer d'un matériel d'occasion va coûter moins cher qu'un matériel neuf. Donc, il aura tout intérêt à partir sur ce matériel d'occasion.
Alors là aussi, Maximilien, soyons utiles, soyons concrets pour Benjamin. Comment l'aider à monter à 50% de reconditionné, donc la moitié de votre flotte? Aujourd'hui, c'est un tiers, ce qui est déjà pas mal. Comment faire pour aller à 50?
La piste, Benjamin l'a trouvée, c'est le coût, c'est le prix, ça coûte moins cher, c'est 15% moins cher. Maintenant, à partir de là, je ne peux pas ne pas souligner là aussi la pertinence de l'offre. On connaît les marques qui font ça sur les smartphones, par exemple, le reconditionnement. Comme on est dans un monde fini, la croissance infinie dans un monde fini, ça ne marche pas. Voilà, j'ai enfoncé la porte ouverte. Mais c'est important de le rappeler. Et donc, tous les acteurs qui sont dans une posture où ils permettent le reconditionnement pour limiter les mines en amont, limiter la déforestation, limiter la destruction de la biodiversité, limiter les pollutions, c'est à prendre. Un acteur comme Aprolis aujourd'hui fait partie, contribue à cet objectif. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les clients dans leur chaîne de valeur l'intègrent. Alors, un, l'argent. Et puis deuxièmement, avec la CSRD, donc la directive de reporting, ou avec toutes les dynamiques de reporting en développement durable ou en RSE, les clients industriels vont comptabiliser les économies d'énergie, de CO2 et de matière proposées dans ce cas-là par le reconditionnement. Donc le deuxième argument, c'est vous allez pouvoir comptabiliser dans votre scope en tant qu'industriel une diminution de votre impact environnemental, et ça, c'est majeur.
Est-ce que, Benjamin, c'est vous qui reconditionnez en interne ?
C'est nous qui reconditionnons.
D'accord, vous avez fait ce choix-là.
On a fait ce choix-là et surtout, on a investi massivement dans notre site de Calais qu'on a visité hier.
Oui, tout à fait.
Pour se préparer et pour arriver à un objectif de doubler le nombre de matériels reconditionnés d'ici 5 ans.
Et juste pour finir, là-dessus, vous sentez parfois, il y a quoi, un blocage psychologique chez les clients de dire reconditionné, ça va être moins efficace que le neuf, moins bien marché?
Je crois que c'est une façon d'expliquer l'avantage pour le client et c'est de l'évangélisation une fois de plus. Ouais. C'est le prix. Déjà, un client va payer au moins 10 à 15% de moins sur son loyer. Donc déjà, l'argument fait mouche. Et derrière, l'argument sur le climat, c'est 15% de masse d'un matériel neuf en extraction. Et ça, le client ne le savait pas avant qu'on lui explique.
Bon, donc 85% d'économie. 85% d'économie en matière.
Absolument.
Évidemment. On retourne une dernière fois sur le terrain, parce que donc là, on a parlé de vos scopes 3, comment réduire l'empreinte de vos parties prenantes. Là, on va aller voir votre empreinte à vous, la décarbonation de vos sites. Vous voulez avancer sur ce sujet aussi.
Troisième défi, décarboner les agences et sites industriels d'Aprolis en passant aux énergies renouvelables. Et ça, c'est un investissement lourd de plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il faudra bien sûr réussir à rentabiliser.
Le premier sujet, c'est d'assurer la qualité d'exécution, puisqu'on est sur une toiture d'un bâtiment industriel qui est en exploitation. Donc le premier enjeu, c'est d'éviter les fuites, c'est d'éviter les défauts de structure. Donc il faut qu'on soit à la fois bien assuré, mais aussi surtout qu'on utilise des matériels qui sont agréés, qui font l'objet de certifications extrêmement rigoureuses. Et ensuite, c'est évidemment la qualité d'exécution, la qualité de pose par les entreprises qui fait que l'installation pourra tenir pendant toute sa durée de vie, qui est de l'ordre de 30 ans à peu près, sans qu'on doive réintervenir sur le matériel. Au total, quand on aura fini d'installer la totalité de la toiture photovoltaïque, je pense que la centrale serait capable de produire à peu près 30-40% de l'électricité consommée par le site et que 70% de l'électricité produite par la centrale sera consommée sur place. Donc c'est ce qu'on appelle le taux d'autoconsommation qui est très intéressant et qui évite de faire transiter de l'électricité par le réseau électrique avec toutes les pertes conséquentes.
Alors, Maximilien, pour conclure, comment aider Benjamin, là aussi, à accélérer sur cet objectif de décarbonation des sites ?
Alors, il y a l'objectif de décarbonation que je peux requalifier, là, dans ce cas précis, d'objectif d'adaptation. Adaptation des sites au changement climatique, adaptation et résilience du site au changement climatique. D'ailleurs, ce mot, c'est la capacité du site à toujours fonctionner dans le climat de demain. Donc, est-ce qu'on aura des coupures d'électricité ? Ben, dans ce cas-là, avoir des panneaux solaires sur son toit, ça nous autonomise en tant que site. Ouais. Est-ce qu'on aura des canicules ? Avoir une ombrière photovoltaïque, ça nous protège un peu de la chaleur. Avoir et réfléchir un peu plus large, au-delà du climat et de la canicule, les questions d'eau et les questions de résilience globale sur le site. Voilà. Ouais. Le sujet du climat, c'est un peu le fil d'Ariane qui permet de tirer tout le changement de monde, le changement vers un monde plus bouleversé, un peu plus difficile à gérer, évidemment au niveau du climat, des températures et de l'eau, mais d'une manière générale sur les ressources et sur la capacité à opérer. Ouais. Et là, je pense qu'il y a une première démarche, la décarbonation, que je requalifie d'adaptation, et qui ouvre à une résilience plus globale des agences.
Ouais. Bah, vous faites les deux à la fois, la décarboner et vous adapter. En 30 secondes pour finir, Benjamin, ce type d'investissement, on l'a dit, c'est quand même des investissements assez lourds pour vous. Est-ce qu'ils peuvent être remis en cause par la conjoncture actuelle qui est assez difficile, notamment dans l'industrie où vous opérez ?
Alors, ces investissements ne seront pas remis en cause parce que il faut se mettre en route. Moi, j'ai participé à la CEC dernièrement.
Attention aux entreprises pour le climat,
ouais. Voilà. Et j'ai vraiment, ça a été un choc. Et je me suis dit, en tant que dirigeant, il faut se mettre en route. Donc, il faut pas aller chercher le retour sur investissement de ces infrastructures. Mais ça va être une nécessité pour l'ensemble de l'écosystème. Et c'est ceux qui prendront ces décisions aujourd'hui qui gagneront demain.
Ouais, c'est ça paiera tôt ou tard. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les deux. Benjamin de Castelnau d'Aprolis et Maximilien Rouet de Mazar. Allez, on a parlé manutention. On change de business, d'activité. On va parler de PLV et de merchandising à présent. Comment faire du merchandising et de la PLV durable ? Quels sont les nouveaux modèles d'affaires économiques et climatiques du secteur ? On en parle avec deux dirigeants qui ont des idées et surtout des réponses très concrètes sur le sujet. Bonjour Françoise Raoul-Duval.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la PDG de Diam. Diam, c'est une société qui fait du merchandising pour les marques de luxe et de beauté. Et avec vous, Loïc Schouteten, bonjour.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le dirigeant de LVH, spécialiste de la PLV. PLV, je rappelle, c'est la publicité sur le lieu de vente. Françoise Raoul-Duval, à vous l'honneur, je commence avec vous. Très concrètement, on est là pour parler de la bascule des modèles d'affaires, des modèles d'affaires climatiques, comme on dit. Expliquez-nous concrètement en quoi ça consiste dans votre entreprise.
Alors, avant de parler de la bascule des modèles d'affaires, c'est important de raconter tous les progrès qu'on essaie de faire avant de changer le modèle. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de changer le modèle. Mmh. Alors, ça consiste en quoi ? Alors, sur le social et sur le climat, je traite toujours les deux en même temps, c'est important. Parce que, pour moi, on n'avance pas si on ne traite pas le S avec le E. Important, j'y reviendrai si ça vous intéresse. Sur l'environnement, les premières choses qu'on fait, c'est des choses évidentes de diagnostic, donc des sujets de bilan carbone, puis d'ACV par affaire, et toute l'analyse...
ACV, pardon, pour ceux qui connaissent
ACV, pardon, analyse de cycle de vie, qui sont les analyses de cycle de vie qu'on fait par projet ou par produit, et qui complètent en fait le bilan carbone. Okay. Une fois qu'on a fait ces diagnostics, on engage les équipes sur, là, on va pouvoir impacter de façon positive, donc diminuer nos impacts carbone, avant le changement de modèle d'affaires. Et les diminutions des impacts sont très importants. Avant même d'aller plus loin, on a fait, nous, aujourd'hui, par exemple, moins 40% de diminution d'impact carbone sur tout le groupe Diam entre 2019 et 2024, alors qu'on a eu une croissance de plus de 25%.
Ouais.
Et ça, en travaillant
moins 40 sur les trois scopes.
Sur les trois scopes, okay, absolument. Ouais. Sachant que le scope 1 et 2 chez nous est assez faible, c'est 2% du sujet, mais okay. Il est important parce que c'est l'exemple qu'on donne. Ouais, bah ouais. Donc investissement, etc. Mais surtout sur le scope 3, ce qu'on fait pour nos clients, c'est la partie la plus importante. Et j'y reviendrai. Et ensuite seulement, on parle de changement de modèle d'affaires où on va aller beaucoup plus sur l'économie circulaire, avec des sujets de recyclage importants, ou sur l'économie servicielle.
Voilà. Intéressant. On va développer tous ces points, bien sûr, mais je pose la même question à vous, Loïc. Qu'est-ce que vous avez enclenché comme transformation, ou en tout cas, comment est-ce que vous améliorez l'existant chez vous, chez LVH ?
Donc nous, LVH, on est concepteur fabricant de PLV en sur-mesure, principalement en carton. Donc le carton, c'est une matière qui est recyclée, recyclable. 7 fois, elle peut être recyclée 7 fois.
Donc, au départ, il est bon.
Exactement, la base est bonne.
Ouais.
Donc, on a développé l'éco-conception, on l'a chevillé au corps. Cette éco-conception, on l'a, avec la CEC, ça nous a beaucoup remis
aussi,
en cause.
Tous les deux, conventions des entreprises pour le climat.
Tout à fait, on vient de la terminer, la CEC.
D'accord.
Donc, elle nous a bousculé, elle nous a chamboulé.
Ouais.
Mais nous, notre modèle d'affaires, on a décidé de le faire évoluer au fur et à mesure. Et c'est le métier d'aujourd'hui, le métier actuel, qui financera le métier de demain. Le métier de demain, on doit y réfléchir. Mmh. Il doit être contributif, il doit être régénératif. Mmh. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire évoluer notre métier actuel vers le contributif. Ok, les termes, vous les...
Oui, tout à fait.
Donc,
Et donc là, dans l'existant, comment est-ce que vous faites du contributif, justement ?
Eh bien, éco-conception, gestion des déchets. Nous, on est une industrie, donc on produit.
Ouais.
Donc l'objectif, c'est réduire les déchets, mieux valoriser notre produit, avoir une économie circulaire.
Ça fait déjà beaucoup de choses à faire. Et donc les modèles de demain ? Maintenant, on y passe, vous parliez de circularité, de serviciel. Parce qu'effectivement, quand on pense merchandising, enfin en tout cas moi qui ne connais pas, on pense à quelque chose d'éphémère ou de jetable. Est-ce qu'on peut rendre ça durable ou circulaire ?
Alors d'abord sur le merchandising, vous avez plusieurs catégories de merchandising. Vous avez le permanent et vous avez l'éphémère. Les deux sont utiles, en tous les cas pour nos clients, dans le luxe et la beauté, les deux sont utiles. Sur la partie permanent, c'est accompagner des magasins à exister et à présenter des produits, aussi simple que ça. Et sur la partie éphémère, ça accompagne des campagnes. Je crois que Loïc va être plus sur l'éphémère et nous plus sur le permanent, pour des questions de modèle, pas pour des questions de raison d'être. Nous, quand on est plus sur le permanent, il nous arrive aussi de faire de l'éphémère pour un certain nombre de marques, notamment quand c'est très créatif, mais les deux existent. Donc l'évolution des modèles d'affaires, comme Loïc, on a participé à la Convention des entreprises pour le climat, on était dans la session numéro 1 en 2022,
d'accord.
Et on a appris cette partie-là, c'est-à-dire que la première partie qui est de réduire nos impacts, elle est plutôt liée à du travail d'ingénieur, sur les matériaux, sur la lumière, sur les réductions très techniques qui peuvent accompagner nos clients. Et nos clients nous aident énormément à évoluer là-dessus parce qu'ils en ont besoin. Et la deuxième partie,
ils sont intéressés.
Très intéressés. Alors, nous, on a beaucoup de chance parce que dans le sujet du luxe et de la beauté, ils poussent énormément. Par exemple,
d'accord.
On s'est engagé sur Science Based Target en 2019.
Ouais.
Et aujourd'hui, SBTI, 85% de nos clients sont engagés sur SBTI.
D'accord.
Donc, c'est important parce qu'on leur apporte une décarbonation. Ouais. Et du coup, on n'est pas juste un acteur de merchandising, mais on est aussi un acteur qui aide à décarboner. Et pour revenir sur le changement de modèle d'affaires, ce qu'on a appris à la CEC ensemble, donc la Convention des entreprises pour le climat, c'est comment passer au contributif puis au régénératif. Ouais. Alors, c'est difficile quand on est une industrie. Parce que le régénératif, nous, on l'a trouvé des pistes sur le bois, parce qu'on utilise beaucoup de bois dans nos fabrications, mais sur le reste qui n'est pas du bois, c'est pas si simple.
Ouais,
mais en tous les cas, on explore. Et en explorant le régénératif, on a trouvé des pistes beaucoup plus intéressantes sur le circulaire. Et notamment, nous, on fait revenir pas mal de PLV des magasins vers nos usines pour ensuite broyer et reproduire. Donc là, il y a des cas extraordinaires qu'on fait avec L'Oréal, par exemple, ou avec Chanel. Et c'est vraiment très satisfaisant de voir qu'on réutilise ce qui a été fait pour le faire autrement. Et puis, les modèles serviciels, je crois que tu travailles aussi là-dessus, Loïc.
Tout à fait.
Serviciel, donc c'est à l'usage.
Oui.
Et ça, pareil, ça convient à vos clients parce que c'est un gros changement aussi pour eux, plutôt que d'acheter et d'être propriétaire, de passer
C'est un objectif, en fait.
Ça paraît opportun pour vos clients de faire comme ça.
Il faut le partager avec eux. Nous, on est dans l'éphémère. Déjà, on est dans le circulaire.
Ouais.
On travaille sur la seconde vie de nos PLV. On fait de la PLV en carton, mais aussi qui est installée, désinstallée, qui sert plusieurs fois.
D'accord.
Donc, on augmente le cycle de vie de la PLV éphémère. Sur le serviciel, de toute façon, c'est un axe de développement. La CEC nous l'a montré, c'est une évidence. Mais c'est allier le produit au service et ça sera en collaboration, en co-construction avec nos clients et nos partenaires.
Ouais.
Et ça, c'est le serviciel, chose... par exemple, c'est la robustesse. C'est-à-dire qu'on travaille avec quelques clients sur comment faire en sorte que le matériel permanent dure plus longtemps. Si on laisse ce qu'on appelle nous des gondoles ou des backhauls ou des éléments dans un magasin pour porter les produits, si on les laisse plutôt 8 ans que 5 ans, eh ben c'est positif, on les change moins. C'est jamais nous qui décidons, c'est nos clients. Mais on peut aider à la robustesse, on peut aider à la maintenance, on appelle ça excellence opérationnelle, où on a des interventions dans plusieurs pays aujourd'hui, sur les 20 pays où on agit beaucoup, pour aider sur cette configuration-là. C'est plus compliqué, c'est une toute petite partie du chiffre d'affaires, mais on commence à y travailler.
D'accord, très intéressant. L'obsolescence, quelque part. C'est de ça dont on parle. Une question qui me venait à l'esprit aussi en vous écoutant et en préparant cette émission, c'est que vous êtes présent physiquement, concrètement, sur les points de vente. Donc vos clients sont en contact des consommateurs. Est-ce que quelque part, puisque donc là, on parle d'un monde aux ressources finies, on parle de vouloir sortir d'une croissance volumique, est-ce que votre opportunité aussi, c'est de faire passer des messages aux consommateurs et de les inciter à être raisonnables et à moins consommer? Est-ce que c'est un dialogue, en tout cas, que vous avez avec vos clients?
Alors nous, c'est un dialogue qu'on a avec nos clients, c'est d'abord nos clients qui décident, jamais on va se mettre à la place des grandes maisons, c'est elles qui décident et on est un partenaire, mais c'est elles qui décident, mais elles nous demandent souvent de participer à ça. Alors vous avez deux types de marques, vous avez les grandes maisons qui préfèrent faire bien mais ne pas trop en parler, parce qu'elles ont d'autres axes de communication, en tous les cas sur la partie PLV, et puis vous avez des marques qui vont avoir envie de communiquer directement sur un éco-design, comme tu disais tout à l'heure, un éco-design de gondole chez nous ou de backhaul, un éco-design de magasin, et à ce moment-là, on va contribuer en donnant les impacts, en disant voilà, ça nous arrive aussi, nous, on a une petite activité de packaging de niche, de communiquer là-dessus sur certains écrins qu'on peut faire sur des grandes maisons qui ont moins 40% d'impact carbone et ce genre de choses. Et oui, même dans le luxe, les maisons, je crois, considère que ça a un impact sur le consommateur, et notamment sur les jeunes générations, et en tous les cas, nous, on y participe.
Et vous, LVH? Parce que, enfin, vous, vous êtes aussi présent dans la grande distrib, enfin, vous touchez beaucoup de monde. Là aussi, est-ce que c'est des discussions que vous avez avec vos clients ou pas?
Pas forcément aujourd'hui. L'objectif, c'est de les avoir. On travaille aussi également avec des agences qui les ont, et donc on est en support des agences pour travailler et avancer avec les marques.
Ouais.
En tous les cas, ce qu'on se disait avec Loïc, c'est que quand le client a envie d'en parler, très souvent, en fait, ça nous fait gagner du chiffre d'affaires et gagner des parts. Parce que le fait de développer ça par rapport à d'autres entreprises qui ne le font pas, c'est aussi une création de valeur. Moi, je ne m'en cache pas. On le fait pour le bien, on le fait pour la planète, pour les gens, pour les employés avec qui on bosse, parce qu'ils sont aussi très motivés par ça et très fédérés sur les sujets d'éco-design. Mais on le fait aussi parce que ça permet de gagner des affaires.
Non, c'est bien pour ça qu'on parle d'un modèle d'affaires climatique. Il y a les deux.
Ce que je voulais dire aussi, nous, on est une PME. Une petite PME, 50 personnes. On se pose des questions.
Une PME de 20 ans, quand même. Donc, voilà,
qui résiste bien. Qui résiste, qui se développe, qui se développe et qui avance, basée à Calais.
Ouais, tout à fait.
On se posait la question dans l'éco-conception, comment l'expliquer, mieux l'expliquer, le faire vivre à nos clients. On a créé, avec impulsé par les réflexions lors de la CEC, on a créé des journées éco-conception. Donc, on a invité plusieurs clients, parfois concurrents, chez nous, pour avancer et pour discuter sur ces sujets d'éco-conception, de réduction d'emballage, de réduction de taille de PLV, tout en maintenant le discours et l'effet waouh de la PLV et l'aspect communicant. On a beau être petit, on sait parler et on peut se développer vis-à-vis des clients multinationaux.
Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci infiniment
à
tous les deux,
Thomas,
pour vos conseils très concrets, vos partages d'expérience. Françoise Raoul Duval chez Diam et Loïc Schouteten chez LVH. On accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas.
Directeur de l'AXA Climate School. On commence Antoine, votre journal aujourd'hui avec un peu de pédagogie sur l'adaptation, ça fait jamais de mal, avec ce nouveau rapport de Météo France qui nous décrit le climat d'une France à plus 4 degrés.
Et oui, plus 4 degrés, c'est ce qu'on appelle en France la trajectoire de référence, plus 4 degrés à la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est ce qui va probablement nous arriver, ce à quoi il faut donc se préparer. Alors à quoi ça ressemblera? Eh bien d'abord, il fera chaud. Chaque été en France, on atteindra les 40 degrés, il y aura même des pics à 50 degrés, le rapport mentionne des canicules qui pourraient durer jusqu'à 2 mois. Alors pour être un peu concret, si on regarde le pourtour méditerranéen, une région qui vous est chère Thomas, il fera 40 jours par an, plus de 35 degrés au bord de la Méditerranée. C'est 10 jours de plus que les records actuels, les pires années actuelles. Et puis vous connaissez les nuits tropicales, ces nuits où la température ne repasse pas sous les 20 degrés. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine par an dans le sud de la France. On parle là de plutôt une centaine par an, deux fois plus. Donc, si on regarde maintenant niveau pluie, un climat plus chaud, c'est un climat plus humide. Et donc, les pluies intenses seront plus intenses encore, notamment dans le nord de la France, plus 20%. Ça rendra les inondations beaucoup plus fréquentes. Trop d'eau en hiver, évidemment, mais aussi moins d'eau en été. La sécheresse qu'on a connue en 2022 deviendra un événement fréquent d'ici à 2100. Alors 2100, ça paraît loin, mais les enfants qui naissent aujourd'hui n'auront que 75 ans à cet horizon. Il est donc urgent de se préparer à cette France à plus 4 degrés.
Évidemment. Direction maintenant la Suède, un des leaders de la transition en Europe. Et pourtant, les émissions du pays remontent depuis quelques années.
Et oui, la Suède, c'est un pays paradoxal. D'un côté, c'est un des pays développés avec les émissions par habitant les plus basses. On parle de 25% en dessous du niveau de la France. La Suède vise aussi la neutralité carbone en 2045, avant l'accord de Paris, donc avant aussi l'Union européenne qui, elle, vise 2050. Mais c'est aussi un pays dont les émissions repartent à la hausse depuis 2 ans, et ça, c'est inédit. Les raisons, elles sont à chercher notamment du côté des mesures politiques. Le gouvernement, au pouvoir depuis fin 2022, a passé des mesures pour défiscaliser le diesel. On en avait parlé ici aussi, ils ont supprimé une taxe sur les billets d'avion. Résultat, les émissions repartent. Dernier symbole de ces reculades, Stockholm était une des villes, la première grande ville même, qui devait interdire les véhicules thermiques dans l'ultracentre au 1er janvier de cette année. La mesure a été annulée juste avant sa mise en application. La preuve donc que même dans les pays développés avec des moyens, la baisse des émissions ne sera pas un long fleuve tranquille.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour finir, Antoine, vous nous parlez des énergies renouvelables aux États-Unis, dont le prix a chuté depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir.
Oui, les annonces pro-fossiles et anti-ENR ont fait baisser la cote des exploitants de centrales, qu'elles soient photovoltaïques ou éoliennes. Mais en fait, sous tout ça, c'est la baisse, une baisse qui a été amorcée, dès 2021. En 4 ans, l'index Standard & Poor's qui suit les ENR a baissé de 75% en valeur. C'est absolument majeur. Résultat, ce sont les soldes. Brookfield vient de racheter plus de 10 milliards de fermes ENR en moins en quelques mois. Copenhagen Infrastructure Partner vient annoncer un fonds renouvelable de 12 milliards. KKR annonce lui un fonds climat à 7 milliards. Alors pour qu'il y ait des acheteurs, il faut des vendeurs. Et là, on les trouve du côté des grands pétroliers, car la plupart ont annoncé un recentrement sur leurs activités historiques. Les ENR sont jugés pas assez rentables, on s'en déleste donc. Il est évidemment toujours difficile de prévoir comment le marché se comportera à long terme, mais les investisseurs qui, eux, parient sur ce long terme, considèrent que les ENR sont sous-cotés malgré leur mauvaise presse aujourd'hui et que les prix remonteront. La preuve donc que même quand on veut drill baby drill comme le président américain, eh bien on n'arrête pas une transformation en marche aussi facilement.
Merci, merci beaucoup Antoine et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi à la Convention des entreprises pour le climat pour son aide toujours aussi précieuse dans la préparation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on garde contact sur notre site internet, notre appli en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.